Avec Saint-Jean-de-la-Croix que nous avions laissé en parlant de la nuit de l'esprit, en disant même juste auparavant que chez lui le renoncement ne connaissait aucune limite, au sens où au renoncement au bien matériel, au bien intellectuel, il joignait aussi les biens de l'esprit, hein, et y compris les faveurs surnaturelles à laquelle l'homme pourrait s'attacher. Donc vraiment un mouvement de dépassement et de dépassement continu chez lui. Donc un petit mot très bref, hein, de la nuit de l'esprit, qui est donc l'ultime passage, l'ultime purification, particulièrement pénible aussi et vigoureuse, qui laisse l'homme complètement anéanti. Il se sent abandonné de Dieu aussi bien que des hommes, vivant ici-bas un purgatoire anticipé, mais au-delà se trouve la joie de l'homme. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, pour l'itinéraire que trace Saint Jean de la Croix. Et puis, le dernier thème, un petit peu, que j'évoque avec lui, et qu'on trouve surtout dans la Vive Flamme et le Cantique spirituel, c'est ce qu'il dit du contact réalisé dans les profondeurs de l'âme avec l'essence divine. Donc, vous voyez, c'est l'union comme telle, hein, l'union conçue comme un contact réalisé dans les profondeurs de l'âme avec l'essence divine. Ce qui est important, c'est que non seulement la substance de l'âme se trouve transformée par cette communication de la vie divine, mais que ce nouveau principe de vie, si vous voulez, cette communication, se déploie dans l'ordre de la connaissance et de l'amour et va envahir peu à peu tout l'être humain. Là, Saint Jean de la Croix dit « l'âme donne Dieu à Dieu ». Vous voyez, elle participe complètement aux opérations divines, aux opérations trinitaires. Le mariage spirituel correspond à une déification où toutes les puissances de l'âme sont engagées, mais elle n'est encore qu'un avant-goût de la vie éternelle. Alors, j'en ai fini avec Saint Jean de la Croix, ou plutôt vous devinez qu'on s'arrête alors qu'il y aurait quantité de choses à dire. Nous ouvrons là un petit chapitre que j'ai intitulé « Mystique d'Espagne et d'Italie au XVIe siècle ». Et ce que je voudrais vous montrer à travers ce bref parcours, c'est que ce XVIe siècle, que ce soit en Espagne ou en Italie, est foisonnant de richesses. Alors bon, on va peut-être avoir un peu le vertige devant beaucoup de noms, de dates, etc. etc. Retenez surtout, c'est ça qui est important, c'est la richesse étonnante de cette époque, hein. Évidemment, les grands des grands, donc une Thérèse d'Avila, un Saint Jean de la Croix, un Saint Ignace, mais il y a aussi quantité de figures qui sont, pour un bon nombre d'entre eux, des saints canonisés. Alors, je commence un petit peu avec l'Espagne du XVIe siècle. Je fais un petit peu le tour grands ordres par grands ordres. D'abord, les franciscains. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Alonso de Madrid, mort en 1521. François de Osuna, dont on a déjà un peu parlé, mort en 1540. Bernardin de Laredo, toujours mort en 1540. Saint-Pierre d'Alcantara, mort en 1562, qui va croiser la vie de Thérèse d'Avila. Donc voilà un petit peu pour des figures franciscaines. Vous avez des dominicains avec Louis de Grenade, mort en 1588. Alors, une figure sympathique parce que c'est un théologien convaincu de l'appel des laïcs à la perfection et soucieux de leur donner une méthode de prière adaptée à leur état. Alors, évidemment, déjà, vous pensez François de Sales. Ben oui, d'une certaine façon, un précurseur de François de Sales avec un décalage, vous voyez, d'une demi-génération, quoi. Et en langue espagnole. Vous avez alors une très belle figure, Saint Jean d'Avila, mort en 1569, un prêtre diocésain qui fut un apôtre de l'Andalousie. Alors, je reparlerai un petit peu de l'Inquisition. C'est l'exemple typique d'un homme qui malheureusement qui s'est auto-censuré et que le climat pesant que faisait peser l'Inquisition, d'autant qu'il a été suspecté, enfin il a été dénoncé, etc., etc., ce climat a fait qu'il n'a malheureusement pas produit toute l'œuvre qu'il aurait pu produire dans des conditions plus favorables. Alors quand même, on a de lui une spiritualité christocentrique à l'intention des prêtres. Alors là aussi, vous avez, avec un siècle là pour le coup d'avance, vous pensez peut-être à Bérulle, et de fait, Bérulle l'a connu et repris pour une part. Hein, donc c'est un prédécesseur, une des sources lointaines de Pierre de Bérulle. Vous avez l'Augustinien, Louis de Léon, mort en 1591, qui va être l'éditeur des œuvres de Thérèse, et puis des jésuites, dont l'un des premiers successeurs d'Ignace, Saint François Borgia, qui lui aussi va croiser l'itinéraire de Thérèse d'Avila. Alors, si je vous parle un peu de Thérèse d'Avila, c'est pour vous montrer à travers elle combien ces hommes, ces femmes se croisent, se connaissent, échangent, se soutiennent mutuellement. Il y a aussi, je dirais, des très beaux, pas des réseaux, c'est plutôt des amitiés, des rencontres qui se font et qui donnent de beaux fruits. Alors il reste que, et c'est là où je retrouve l'Inquisition, la lutte entreprise par l'Inquisition contre les alumbrados, donc les illuminés, va évoluer dans le sens d'un antimysticisme soupçonneux, avec un paroxysme, c'est l'année 1559. Paroxysme parce que le grand inquisiteur fait paraître une liste d'ouvrages prohibés, interdits, parmi lesquels vous avez tous les Rénaux flamands, à l'exception de Ruysbroeck. Donc tous les Rénaux flamands sont interdits. Jean d'Avila est interdit. Francisco de Osuna est interdit. Louis de Grenade est interdit. François de Borgia aussi. C'est pour vous dire que même des hommes qui sont tout à fait remarquables, hein, sont interdits à cette époque. Et puis, alors là, ça a été le sommet des sommets, c'est que l'archevêque de Tolède lui-même, on va faire connaissance un peu avec le personnage, il est l'archevêque de Tolède, donc primat d'Espagne, très grand théologien, il a été théologien au concile de Trente. Bartolomé Carranza est arrêté lui-même par l'Inquisition, alors qu'il est donc primat d'Espagne. Vous dire que vraiment, l'Inquisition ne reculait, enfin ne faisait aucun, personne n'était, de par sa fonction, à l'abri d'éventuelles poursuites. Alors bon, j'entre pas dans les détails, une histoire très complexe dans laquelle se mêlent aussi des antipathies très humaines. Hein, bon. Mais ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je parle de lui, c'est que parmi les différents reproches qu'on lui fait, il y a celui d'avoir trop loué la prière intérieure et mystique. Vous voyez, il appartient un petit peu à cet ensemble de mystiques ou d'hommes qui ont écrit sur la mystique qui inquiètent précisément parce qu'il parle un peu de ces terrains peu connus, inquiétants, etc., etc. Donc, vous avez l'action directe de l'Inquisition qui pèse, mais aussi, je le redis, l'autocensure et le silence que certains s'imposent précisément pour être à l'abri de toute menace. Donc voilà rapidement pour l'Espagne, vous voyez, j'ai plutôt fait une énumération des noms. Je vais être peut-être plus discret pour l'Italie. C'est le deuxième foyer du renouveau spirituel au XVIe siècle. XVIe siècle, Espagne et Italie. Les autres pays catholiques sont soit en guerre, soit ravagés par le protestantisme. Donc, ce sont les deux pays qui jouissent de suffisamment de paix pour pouvoir, comme ça, avoir une vie spirituelle qui se développe. Alors, en Italie, le mysticisme, on va dire la vie spirituelle, la vie mystique, a joui d'une liberté bien plus grande que dans la péninsule ibérique, malgré la publication d'un index Librorum Prohibitorum, donc des livres interdits, sous Paul IV, qui est pape jusqu'en 1559. Vous voyez, on retrouve vraiment les mêmes années. Mais bon, s'il y a un index qui paraît, il n'y a quand même pas une présence de l'Inquisition. L'Inquisition romaine, d'abord, n'agit pas sur tout le territoire, et puis elle est beaucoup moins sourcilleuse que l'Inquisition royale en Espagne. Donc l'Italie va se transformer en un centre extrêmement ouvert et perméable à tous les courants religieux de l'époque. Donc, vous voyez, elle accueille beaucoup, et en même temps, donc ça c'est un petit peu centrifuge, et en même temps c'est centripète dans la mesure où l'Italie, parce que c'est Rome hein, au centre, va à la fois rayonner, irradier diffuser un petit peu ce qui se vit chez elle. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est un centre vraiment important. La vie mystique qui est florissante et en même temps, voilà un peu le paradoxe, c'est en Italie, au XVIe siècle, ben, finalement, on n'a pas d'œuvre spirituelle qui ait vraiment traversé le temps, vous voyez. Et on n'a pas non plus d'école à l'influence universelle et décisive. Vous n'avez pas en Italie, au XVIe siècle, malgré toute cette vie spirituelle, deux phénomènes comparables à la fois à l'école ignatienne et à l'école carmélitaine réformée. Il n'y a pas de figure. Bon, je parlerai quand même de Saint Philippe Neri, il y a beaucoup de grandes figures de sainteté. Mais si vous voulez, Philippe n'a pas écrit. Philippe Neri, bon, c'est un esprit évidemment, mais il n'y a pas. Enfin, si, il y a des lettres, il y a des choses, mais il n'y a pas en tout cas de grandes œuvres qui aient eu l'audience des exercices de Saint Ignace ou des grands écrits des maîtres de Carmel. Je dis ça, vous voyez, je ne fais pas des comparaisons de valeur, hein, plutôt en termes de rayonnement, de diffusion. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, Eulogio Paccio, qui est professeur d'histoire de la spiritualité, a essayé de faire un peu une liste des caractéristiques principales de la vie spirituelle en Espagne. Alors, bon, il parle de spiritualité pratique et vitale. Pratique et vitale. Pratique et vitale. Volontariste et affective. Alors, volontariste, attention, ça ne veut pas dire à la force du poignet, mais ça veut dire que la volonté, l'éducation de la volonté, la réforme de la volonté sont présentes et que c'est l'amour en tant qu'il y a un engagement de la volonté. Anti-humaniste et austère. Alors, anti-humaniste, on comprend, hein, il y a une réaction forte au XVIe siècle contre ce que l'humanisme du XVe a pu avoir un peu de païen, de trop centré sur l'homme, trop en référence à l'antiquité païenne. Bon. Moralisante et dévotionnelle. Alors ça, ben voilà, c'est le ton propre à l'Italie, avec beaucoup de dévotion, ce qui veut rien dire, c'est pas un jugement du tout de valeur sur la profondeur de la spiritualité. C'est christocentrique, c'est réformiste. Alors réformiste, c'est que très souvent, c'est les petits noyaux spirituels qui vont se constituer autour de telle ou telle figure vont devenir des cercles réformateurs. Hein, et toute l'équipe des grands évêques sur lesquels Paul III et surtout Paul IV vont s'appuyer pour la réforme, et y compris quelqu'un comme Sadolé, qu'on connaît bien ici, tous ces évêques-là seront d'abord des hommes qui ont participé à ce renouveau spirituel. Oui. Alors ensuite, bah, ils vont devenir évêques, et des évêques tout gagnés à l'idée de la réforme et tout gagnés à l'idée d'un concile réformateur qui va être le concile de Trente. Donc christocentrique, réformiste, enfin tourné vers l'exaltation du pur amour. On va voir de quoi il s'agit. Alors, on va faire connaissance avec quelques-uns de ces personnages. Je donne d'abord la parole à une femme, Catherine Fietschi. Pardon, je prononce pas comme il faudrait. Morte en 1510. Bon, elle est surtout connue comme Catherine de Gênes, Sainte Catherine de Gênes. Donc une femme qui a été laïque, mariée, mariée puis veuve, d'une famille prestigieuse, et qui a été tenue comme un des sommets de la mystique catholique. Alors en même temps, Louis Cogniet a cette belle formule, c'est une autodidacte de la grâce. Une autodidacte de la grâce, c'est-à-dire qu'elle a vécu très vite des expériences qui ont dépassé tous ceux qui l'entouraient, et bon, elle s'est un peu... elle a marché, quoi. À la fin de sa vie, elle présenta d'extraordinaires symptômes qui la montrent comme dévorée d'un feu intérieur. Alors, je cite un petit extrait de sa vie, écrit par des gens qui l'ont bien connue. Hein. « Bien des années avant sa mort, elle avait à l'endroit du cœur, à l'extérieur, une tache jaune comme du safran, et elle disait qu'elle sentait dans ce cœur un tel feu sensible qu'elle s'étonnait de pouvoir vivre. » Vous avez une chose à peu près semblable chez Saint-Philippe Néri. Donc, une expérience étonnante, comme si le cœur physique, si vous voulez, participait un petit peu à la réalité d'un amour qui l'a dépassé et qui vraiment, dans l'origine, était divine et qui la faisait brûler, j'allais dire, au sens propre et figuré. Alors, l'expérience de Catherine de Gênes la conduit rapidement à une formulation apophatique. C'est-à-dire, apophatique, vous savez ce que c'est quand les mots pour exprimer ne viennent pas de façon, en tout cas pour exprimer de façon positive, et donc on exprime surtout son expérience de façon négative, et puis par le silence. C'est au-delà des mots. Oui. Donc, formulation apophatique... Il y a pourtant un point sur lequel elle s'exprime positivement et insatiablement, c'est l'amour en Dieu qu'elle développe avec une ampleur magnifique et qu'elle tient pour la seule définition possible de son essence. Vous voyez, une mystique, je serais tenté de dire, typique de la mystique féminine, avec cette expérience très très forte de l'amour, et on peut dire que d'une certaine façon, les seuls mots qui lui restent, qui lui viennent, qui appartiennent encore à son vocabulaire pour parler de son expérience et du Dieu qu'elle rencontre, c'est l'amour. Alors Catherine de Gênes est une des figures de proue de la ligne du pur amour, c'est-à-dire de la charité parfaitement désintéressée. On va retrouver ça au XVIIe beaucoup, hein. Cette ligne du pur amour, c'est-à-dire ce qui importe, c'est d'aimer Dieu, et on va avoir des formulations. Alors, j'avoue que je ne sais pas si déjà on les trouve chez elle, on va les trouver chez d'autres auteurs, des formulations où on entend dire « quand bien même Dieu me mettrait en enfer, la seule chose qui m'intéresse, c'est de l'aimer, quand bien même, vous voyez, il n'y aurait pas la récompense éternelle. » Vous voyez, le désintéressement, on peut dire, de l'amour va jusque-là. Indépendamment de la récompense, indépendamment, le seul fait de l'aimer me suffit et est à lui seul, si vous voulez, ma récompense. C'est ça, le pur amour. Alors, de Catherine de Gênes, peut-être vous connaissez le traité du purgatoire, hein, qui recueille en fait des propos partagés à ses disciples. Donc on ne sait pas exactement si c'est tout à fait d'elle, ou le fait est que ça a été retranscrit. Donc, le traité du purgatoire a traversé les siècles. Hein, il est encore édité, il me semble, par les éditions de l'Emmanuel. Donc, vous voyez, c'est vraiment des éditions tout public qui l'éditent encore aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, sa biographie et ses dialogues spirituels ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecteurs et ont exercé une très grande influence sur son temps. Alors, je termine avec Sainte Catherine de Gênes, d'autres figures de sainteté, Saint Gaétan de Thiennes, fondateur des Théatins, 1542, compagnon du pape Paul IV, Saint Antoine Zacharia, fondateur des Barnabites, en 1530, donc vous voyez, des spirituels, des fondateurs, et des fondateurs réformateurs. Et Saint Charles Borromée, évidemment, l'archevêque réformateur de Milan, bientôt modèle des pasteurs tridentins. Vous voyez, ces trois hommes, ces trois saints, évidemment, ont donné une sainteté éblouissante. bon, surtout peut-être Saint Charles Borromée qui est le plus connu des trois, et en même temps, on n'a pas de grands écrits spirituels de Saint Charles Borromée. Alors, je vais m'étendre un peu plus sur Saint Philippe Néri, le fondateur de l'oratoire, mort en 1595. Figure très sympathique, hein, qui illustre particulièrement la note joyeuse de la sainteté et de la mystique italienne. On peut dire que sous ce rapport, il annonce un peu Saint François de Sales, et en même temps, faut pas se tromper, hein, j'en dirais autant pour Saint François de Sales, c'est des hommes qui, de fait, montrent un visage très, très souriant, très, très aimable, très attirant, en même temps, des hommes qui ont un sens très, très fort de la mortification intérieure et de la vie de prière, à commencer pour eux-mêmes. Son biographe, le cardinal Capecellatro, dit de lui, alors je le cite, « Il se fit le maître d'un ascétisme doux, aimable, tendre, plein de compassion. » On trouve difficilement dans sa vie deux ou trois exemples de sévérité modérée. Et vraiment, on veut montrer comme un homme très, très souriant, très, presque accommodant. Hein. On trouve difficilement dans sa vie deux ou trois exemples de sévérité modérée. Et au contraire, on peut voir à chaque pas une infinie délicatesse de charité à l'égard du prochain. Alors, gardons la dernière note, l'infinie délicatesse de charité à l'égard du prochain. Il faut quand même un tout petit peu modérer, tempérer le jugement sur la sévérité modérée. Il pouvait être très exigeant. Hein. Vous avez un de ses disciples qui a été par ailleurs une très grande figure, le cardinal Baronius. Philippe Néri a été très très exigeant avec lui. Et notamment lui permettant de devenir le très grand historien qu'il a été, en le faisant travailler. Baronius a été vraiment un rude école. Et en même temps, il a été comme ça une très belle figure lui-même de sainteté, même s'il n'a pas été canonisé. Alors, comme Charles Borromée, comme Gaëtan de Thiène, Philippe Néri n'a pas laissé d'œuvre spirituelle écrite. Mais il est très représentatif d'une des notes de la spiritualité italienne de son temps par son insistance sur l'amour divin. Et j'ajoute, et par sa traduction concrète en charité active. Vous voyez, des mystiques, des grands spirituels, et en même temps, des hommes, des femmes, parce que vous verrez, je reparlerai à nouveau de Catherine de Gênes, traduction très concrète en charité active à l'égard des malades et des contagieux. Cet exemplaire, avec un homme comme Ettore Vernazza, alors voilà comment son nom s'écrit. Qui est cet homme? Eh bien, c'est un des disciples de Catherine de Gênes. Vous voyez, il appartient vraiment au cercle proche de Catherine de Gênes et il est fondateur de l'Oratorio del Divino Amore. Et qu'il s'agisse de l'oratorio ou qu'il s'agisse déjà de Catherine de Gênes qui avait fondé des hôpitaux italiens, eh bien, l'oratorio et Catherine de Gênes et Vernazza et tous ces cercles-là, si vous voulez, ont fondé, animé, travaillé dans quantité d'instituts dédiés à des œuvres de miséricorde. Vous voyez, c'est ça qui est très beau en Italie. Ça vous donne un petit peu des figures. De spiritualité ou de la manière dont c'est vécu en Italie, il y a vraiment une traduction dans toutes ces œuvres de miséricorde, chose très très belle. Alors, un petit mot du XVIIe siècle italien, parce que je ne vais pas y revenir particulièrement. Là, on n'a aucune figure mystique ni ouvrage de spiritualité d'envergure. Bon. Donc apparemment, c'est très pauvre. Hein, quand on regarde dans les bibliothèques, quand on regarde, bon, pas grand-chose. On trouve toujours des auteurs, mais enfin de seconde catégorie. Par contre, voilà comment Eulogio Paccio définit ce siècle, ce XVIIe siècle italien, c'est le siècle de la mystique à l'état diffus. C'est ça qui est très beau, vous voyez. Il n'y a pas de grande figure et en même temps, la mystique, la vie spirituelle solide, profonde, est vécue par quantité de clercs, de religieux, de moniales et de laïcs aussi. Un signe intéressant, vous voyez, c'est une petite illustration que la seule production littéraire ou la présence de figures exceptionnelles ne suffisent pas à mesurer la vitalité spirituelle d'une époque, d'un pays, etc. Alors, le XVIIe, là aussi, hein, c'est le siècle, que ce soit en Italie, en France, en Espagne, où le Concile de Trente commence à donner ses fruits. En France, bon, toutes les grandes fondations de séminaires, c'est le XVIIe. Donc on commence, vous voyez, à voir les fruits se produire. En Italie, il y a un peu d'avance, mais là aussi, l'œuvre du Concile de Trente, ben voilà, c'est vraiment au XVIIe qu'on en recueille les fruits. Voilà. J'ai terminé avec ce chapitre. On passe à une nouvelle figure, Saint François de Sales et la Visitation. Alors, en disant Saint François de Sales et la Visitation, évidemment, je le lis à Sainte Jeanne de Chantal. Sainte Jeanne, Françoise de Chantal. François de Sales meurt en 1622. Donc, vous voyez, on commence à... Il est à cheval sur le XVIe et le XVIIe siècle. Alors, ces dates... 1567-1622. François de Sales, c'est un écrivain de langue française, mais ça n'est pas un Français à proprement parler. C'est-à-dire qu'à l'époque, il appartient à la Savoie, qui est indépendante. Bon. Alors, il serait aujourd'hui français, mais il n'appartient pas au royaume de France à l'époque. Et il est, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse plus, c'est qu'il est dans une région frontière, à cheval entre la France et l'Italie. Et vous allez voir qu'un des rôles de François de Sales, ça va être d'être un passeur. C'est-à-dire que c'est un homme qui connaît très bien la spiritualité italienne, qui notamment va beaucoup se nourrir de l'exemple de Saint Charles Borromée. Et il reçoit beaucoup de l'Italie, et on va voir qu'il va beaucoup donner à la France, et que les quelques voyages qu'il va faire à Paris vont être des voyages un peu des triomphes, hein, où quantité de gens vont demander à le voir, et des hommes comme Vincent de Paul, et comme vraiment des très grands spirituels de l'époque. Donc vous voyez, il est un peu un passeur entre le monde italien et le monde français. Alors vous savez peut-être qu'il a été évêque en titre de Genève, mais ne pouvant y résider, puisque Calvin en avait fait la capitale de sa réforme. Donc il se replie sur Annecy. C'est un homme qui a été formé à Paris, au collège de Clermont, alors tenu par les jésuites. Vous voyez, il n'est pas sans l'influence des jésuites. Il a étudié ensuite en Sorbonne, puis il a étudié le droit à Padova en Italie, hein, où il s'est familiarisé avec l'oratoire de Saint-Philippe Neri et avec l'œuvre réformatrice de Saint-Charles Borromée. Vous voyez déjà un peu ses sources, hein, à la fois les jésuites par sa première formation, l'oratoire de Saint-Philippe Neri, Saint-Charles Borromée, bon, c'est déjà beaucoup de choses. Il est ordonné prêtre en 1593, donc là je reviens un petit peu en arrière, hein, et ordonné prêtre, il s'emploie à recatholiser le Chablais. Le Chablais, qu'est-ce que c'est? C'est la petite région de France qui est juste avant Genève en Suisse. Et il recatholise. Alors, c'est intéressant parce que ce contact avec le calvinisme et les calvinistes l'ont convaincu que les armes de la controverse, l'échange des idées, un peu l'ajout, hein, des idées, ne suffisent pas. Et que c'est inutile si on ne forme pas aussi des catholiques qui n'aient rien à envier aux réformés les plus fervents. Et un de ses soucis, c'est de dire, bon, à la limite, si j'arrive à l'emporter sur des pasteurs dans des joutes et dans des discussions de controverses, bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que les catholiques, en tout cas ceux qui me sont confiés, soient vraiment des hommes fervents, des hommes et des femmes ferventes, et que finalement, ben, oui, il soit complètement imperméable au discours des pasteurs et des missionnaires protestants, parce qu'ils seront vraiment fondés dans leur foi catholique et dans une vie spirituelle profonde. Alors, en 1622, c'est là où il succède à son évêque, et il découvre la même année la spiritualité du Carmel. Donc, vous voyez, c'est un... je ne vais pas le comparer à une abeille qui fait du miel, mais enfin, il a pris le nectar d'un bon nombre d'écoles ou de courants. Donc, 1602, il succède à son évêque. Le 5 mars 1604, vous avez un de ces petits événements, apparemment sans importance aux yeux de l'histoire humaine, très important en fait, sa première rencontre avec une veuve qui s'appelle Jeanne de Chantal. C'est le point de départ d'une très belle amitié spirituelle, aussi belle que féconde, pour l'un comme pour l'autre. Au début, c'est Jeanne qui va tout recevoir de François de Sales. Et on va voir qu'à partir d'un certain moment, François de Sales va aussi beaucoup recevoir d'elle. Jusqu'à sa mort, donc, en 1622, François se dévoue sans compter à la prédication, aux écrits spirituels, à la direction de conscience, ainsi qu'à l'administration de son diocèse. C'est un homme qui n'a pas cessé de travailler beaucoup. Alors, comme évêque, déjà, il ne faut pas oublier cette dimension, hein, on passe un peu rapidement dessus, mais c'est un évêque exemplaire dans la ligne de Saint Charles Borromée. Donc, vous voyez, un de ces évêques réformateurs tels que le Concile de Trente l'a voulu. Donc, il fait partie de la génération des prélats tridentins, soucieux de mettre en œuvre les décrets et d'incarner en sa personne l'esprit du Concile. Il manifeste aussi le souffle nouveau qui anime l'Église post-tridentine, l'Église de la Réforme catholique. Il illustre cela autant qu'il l'a nourri, évidemment. De son vivant même, la réputation de sainteté qui l'entoure est immense, avec en même temps une ambiguïté que signale bien Louis Cognier. Je cite, « Ce qu'on cherche en lui, c'est le doux saint, d'aspect bonhomme, d'accès facile. » On a l'impression que « Oh, facile !» En fait, ça a été un directeur très exigeant et austère qui savait aussi trancher dans le vif. Jeanne de Chantal est bien placée pour le savoir. Et elle en a été souvent témoin. Alors, je vous cite quelques avis d'historiens de la spiritualité. Dom Guiouri, sa propre spiritualité est une synthèse personnelle des deux courants ignatiens et carmélitains. Bon, ça donne quelque chose. Hein. Synthèse des deux courants ignatiens et carmélitains. Bon, il y a toujours quelque chose d'un peu artificiel dans ce type de jugement, mais enfin quand même. Pour Philippe Hughes, anglais, la Renaissance française est baptisée par François de Sales et l'humanisme devient dévot. L'humanisme devient dévot. De fait, on va voir ce que veut dire le mot dévot, dévotion, avec François de Sales, et en même temps, ça reste un humaniste. Et dernier auteur que je cite, Jordan Oman, il est aussi un pont entre la Renaissance et la période moderne et a été une des individualités dégageant la plus forte influence sur la spiritualité du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, faisons un peu connaissance avec son œuvre. Son œuvre écrite est considérable. Vous avez 11 volumes pour la correspondance, plus des sermons, des écrits de controverse avec les protestants, et une œuvre très populaire. Je cite d'abord l'introduction à la vie dévote, qui paraît en 1608. L'introduction à la vie dévote. L'ouvrage eut aussitôt un succès considérable, supérieur même par la rapidité du succès et par son ampleur au succès des œuvres de Thérèse d'Avila. On lit plus facilement François de Sales à l'époque. Bon, sa matière n'est pas très novatrice. En soi, il n'apporte rien d'original, si vous voulez, par rapport aux pères de l'Église, aux grands médiévaux, aux modernes italiens et espagnols. Par contre, ce qui est relativement nouveau, c'est le but, et le but affiché, de s'adresser au public laïque. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez l'introduction, le début, la préface à l'introduction à la vie dévote. Je vous cite juste ces quelques lignes. « Ceux qui ont traité de la dévotion ont presque tous regardé l'instruction des personnes fort retirées du commerce du monde. » Donc on a écrit jusque-là, surtout pour les religieux, les moines, etc. « Mon intention est d'instruire ceux qui vivent S ville, S ménage en la cour. » Bon, c'est du français, du vieux français, c'est-à-dire, pour ceux qui vivent, la vie des citadins, des bourgeois, des gens qui vivent dans les villes, les couples, les familles, etc., et y compris la cour. Donc, vous voyez, avec lui, un propos délibéré de vulgariser, c'est-à-dire, pas au sens de déprécier, de mettre à la portée de tous et d'atteindre ainsi les cercles les plus larges. Alors, ça, c'est son œuvre écrite, je le redis, ça s'est accompagné de direction spirituelle, de prédication. Donc, c'est un homme qui a été vraiment complètement engagé dans cette œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il entend par dévotion ? Le mot, évidemment, en français, aujourd'hui, a un autre sens. Bon. Ce n'est pas des grâces ou des faveurs extraordinaires, d'un côté. Ça n'est pas non plus un exercice spirituel particulier. Vous voyez, quand on dit aujourd'hui dévotion, c'est les dévotions, les petites dévotions, etc. Non, c'est ce dont il est question, ça n'est autre que l'amour de Dieu et du prochain. La vraie dévotion s'identifie par conséquent à la perfection chrétienne. Alors, je vous cite, là encore, vous l'avez sur votre feuille 13, hein. Introduction à la vie dévote. La vraie et vivante dévotion au philoté, donc amoureuse de Dieu, aimante de Dieu, la vraie et vivante dévotion présuppose l'amour de Dieu. Ainsi n'est-elle autre qu'un vrai amour de Dieu. Mais non pas toutefois un amour tel quel, car en tant que l'amour divin embellit notre âme, il s'appelle grâce, nous rendant agréable à sa divine majesté. En tant qu'il nous donne la force de bien faire, il s'appelle charité. Mais quand il est parvenu jusqu'au degré de perfection auquel il ne nous fait pas seulement bien faire, mais nous fait opérer soigneusement, fréquemment et promptement, alors il s'appelle dévotion. Vous voyez, ce dont il parle, faut faire attention aux mots, ce n'est pas une petite chose. C'est vraiment l'amour qui est arrivé à un tel degré de développement que il nous fait opérer avec soin, donc avec attention, avec désir de qualité, fréquemment et promptement. Vous voyez, c'est un amour qui est devenu finalement une sorte d'agir envahissant, agir prédominant. Alors, François de Sales va évoquer les bonnes œuvres qui découlent de la vraie dévotion, mais en même temps, il insiste pour dire que la dévotion, c'est d'abord une vie intérieure. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas inverser les causes et les effets, les fruits et les racines. La racine, c'est la vie intérieure. Alors, là encore, c'est là où François rejoint vraiment son public, il dit, cette vie intérieure, elle va trouver en chacun une modalité singulière, adaptée à l'état de vie et aux devoirs propres de chacun dans sa vocation. Comme tous les auteurs de cette période, François de Sales insiste sur la nécessité d'avoir un directeur spirituel. Là, vous voyez, on est vraiment hein, à partir de, on peut dire, de Saint-Ignace, et puis on va trouver ça chez Thérèse d'Avila, chez tous les saints de l'époque, hein, vraiment la nécessité d'avoir un directeur spirituel choisi avec soin et de lutter résolument contre les péchés habituels. Hein. Donc, vous voyez, l'ascèse est là, le combat est là, le combat spirituel. Il fournit un programme quotidien d'exercice spirituel avec une méthode simple d'oraison, surtout analytique et discursive, où la méditation de la vie du Christ tient la première place. Ça, attention, j'aurais dit, c'est l'introduction à la vie dévote. Vous voyez, à la base de la vraie dévotion, une vie spirituelle, mais qui, dans un premier temps, est d'abord surtout discursive, méditative et centrée sur le Christ. Donc c'est là où on voit vraiment, on mesure l'influence de ses prédécesseurs, Louis de Grenade, Ignace de Loyola, Louise de la Pointe, et dans une moindre mesure, Thérèse d'Avila. Alors, cette oraison, là encore, hein, c'est là, vous voyez, quand je vous parlais de la spiritualité italienne volontariste, pratique, pragmatique, bon, oui, on va voir ça avec le fait que cette oraison doit déboucher sur des résolutions qui seront mises en œuvre durant la journée. Vous voyez, on est concret. Il faut que ça débouche sur quelque chose. Alors, vous avez là aussi, je vous ai mis le passage sur votre feuille 13. À tout cela, j'ai ajouté. Pardon, je vais prendre ma feuille pour venir à nouveau. À tout cela, j'ai ajouté qu'il fallait cueillir un petit bouquet de dévotion. Et voici ce que je veux dire. Notre esprit, ayant discouru sur quelques mystères par la méditation, nous devons choisir un ou deux ou trois que nous aurons trouvés plus à notre goût et plus propre à notre amendement pour nous en ressouvenir le reste de la journée et les odorer spirituellement. Bon, je vais peut-être faire une petite traduction pour les non-francophones parce que c'est quand même un peu inhabituel comme langage. Vous voyez cette image, un peu du bouquet, bon, très bien. Alors, on a médité sur des mystères. Bon, mais ce n'est pas tout de méditer, hein, d'avoir médité. Il s'agit que cette méditation, vous les débouche sur des résolutions d'amendement, de correction de soi-même, de réforme de sa vie morale, spirituelle, et que on s'en souvienne plusieurs fois pendant la journée et que ça devienne, si vous voulez, une bonne odeur spirituelle qui monte, que ses sacrifices, que ses efforts, que tout ce qui sera comme ça, toute cette traduction dans la vie devienne une odeur spirituelle qui monte vers Dieu. Voilà. Alors, toujours avec notre ouvrage, hein, le même, la suite de l'ouvrage déploie un programme complet en vue de l'avancement spirituel des laïcs. Alors, comme il est très respectueux des conditions de chacun, eh bien, il va mettre évidemment au premier plan l'accomplissement du devoir d'État. Et il estime même que la vocation du chrétien peut se réaliser en perfection, ne serait-ce que par l'accomplissement du devoir d'État dans toute la perfection requise. Et puis, enfin, dans une troisième partie, il est question des états de vie et des vertus, tandis que la quatrième déploie une étude des tentations et de la tristesse. Et c'est là où on voit un peu le psychologisme salésien, donc sa capacité à analyser de façon très, très riche, belle, profonde, ce que peut éprouver l'homme dans sa psychologie, l'homme dans la prière. Alors, voilà un petit peu, si vous voulez, l'introduction à la vie dévote, hein, qui multiplie très vite ses éditions. Mais ce qui est très beau, c'est que François de Sales, lui-même, va connaître une évolution personnelle quant à l'oraison. Vous voyez, au début, une oraison plutôt discursive, hein, méditative, et puis qui débouchait hein, sur un agir moral, sur une transformation de la vie, sur des engagements, sur des promesses. Bon, et voilà que François va très vraisemblablement profiter beaucoup de ses contacts prolongés avec Jeanne de Chantal, avec les premières visitandines, et par elle, par le Carmel de, avec le Carmel de Dijon. Vous voyez, il y a un peu des milieux féminins contemplatifs qui vont aussi aider François. Et on voit, en étudiant un peu de près ses écrits, que lui qui a d'abord beaucoup pratiqué et enseigné l'oraison discursive, où l'imagination, où l'entendement devait s'affairer, bah, petit à petit s'en affranchit et il adopte peu à peu, je cite Louis Cogniet, cette oraison très simple, contemplative et non conceptuelle, que son école nommera plus tard oraison de simple remise en Dieu. Vous voyez, une oraison qui s'est simplifiée, et le terme exprime bien, hein, une oraison de simple remise en Dieu. Alors, on voit bien cette évolution personnelle dans une lettre qu'il écrit à Jeanne de Chantal. Vous avez la lettre, malheureusement, elle est sans date, hein, mais bon, vraisemblablement, c'est plutôt vers, je dirais, au-delà de l'année 1610, et même peut-être plutôt proche des années 1620. On va les lire ensemble. Votre façon d'oraison est bonne. Donc, il écrit à Jeanne de Chantal. Soyez seulement fidèle à demeurer auprès de Dieu en cette douce et tranquille attention du cœur et en ce doux endormissement entre les bras de la Providence et en ce doux acquiescement à sa sainte volonté, car tout cela lui est agréable. Vous voyez qu'on est, sorti un petit peu d'un travail de l'intelligence, de l'imagination, tout ça, pour se représenter des scènes évangéliques. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il le bannit, évidemment, mais voilà. Jeanne de Chantal a un autre chemin, eh bien, il l'approuve. Suivez votre chemin. Soyez fidèle à demeurer, par contre, auprès de Dieu, en cette douce et tranquille attention du cœur. Vous voyez, le cœur est présent, hein. C'est pas le sommeil, la somnolence, mais une douce et tranquille attention du cœur. Gardez-vous des fortes applications de l'entendement, parce qu'elles vous nuisent non seulement au reste, mais à l'oraison même. Et travaillez autour de votre cher objet avec les affections, tout simplement et le plus doucement que vous pourrez. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'évolution de François de Sales, qui va restreindre aussi le rôle de l'imagination et qui va jusqu'en certains cas à la proscrire pour mieux encourager à exercer la foi. Alors nous avons un témoin de cette évolution, c'est le deuxième grand ouvrage de François de Sales, le Traité de l'amour de Dieu, qui est publié en 1616. Le Traité de l'amour de Dieu, 1616. En fait, les deux ouvrages, l'introduction et le traité, n'ont pas les mêmes publics. Hein, l'introduction, c'était une première initiation. C'était pour permettre à tout lecteur d'entrer déjà dans une vie spirituelle. Là, on s'adresse visiblement à un cercle plus restreint et l'ouvrage est aussi plus exigeant. L'ouvrage se présente comme l'histoire de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. L'histoire de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est un peu une sorte de, j'allais dire, de psychologie des relations de Dieu et de l'homme. Saint François de Sales y étudie les opérations de l'amour divin dans l'âme. Alors vous avez dans les premiers livres une sorte d'introduction philosophique, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même assez ardu, hein, une sorte d'introduction philosophique, on étudie, on analyse les puissances de l'âme, puis la naissance de l'amour de l'âme, donc vous voyez, d'abord étude des puissances de l'âme, puis la naissance de l'amour dans l'âme, et ensuite le cheminement de cet amour et sa croissance jusqu'à la perfection, et aussi les possibilités de dégradation et de ruine de cet amour. Donc, vous voyez, on regarde aussi les risques. Et puis d'autres livres, ensuite, plus spécifiques, décrivent la croissance de l'amour dans l'oraison. Et enfin, les deux derniers livres sont des corollaires sur la souveraineté de l'amour par rapport aux vertus. Alors, je vous lis un petit passage, celui que vous avez dans votre, sur votre feuille. La sainte contemplation étant la fin et le but auquel tous ces exercices tendent, ils se réduisent tous à elle, et ceux qui les pratiquent sont appelés contemplatifs. Comme aussi cette sorte d'occupation est nommée vie contemplative. À raison, traduisez en raison, de l'action de notre entendement, par laquelle nous regardons la vérité de la bonté et beauté divine avec une attention amoureuse, c'est-à-dire avec un amour qui nous rend attentifs. On pourrait trouver des définitions assez proches chez les auteurs du Carmel. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette contemplation dont parle ici François de Sales, ben voilà, une attention amoureuse, c'est-à-dire un amour qui nous rend attentifs et donc qui va rendre attentif l'homme sur la vérité de la bonté et de la beauté divine. Donc la contemplation, d'après saint François de Sales, est ainsi non discursive, on n'est pas à réfléchir, à travailler avec l'intelligence, et en même temps intensément amoureuse, c'est-à-dire tout à la fois volontariste et affective à la fois. Vous voyez, l'affection est bien là, présente, le cordis, le cœur, mais aussi la volonté qui est impliquée. Cette contemplation implique la suprême pointe de l'âme, demeure de la grâce et que seule la foi illumine. Bon, là, rien d'original, on est déjà les mystiques réno-flamands disaient cela. Rien aussi d'original quand il dit que la contemplation est surnaturelle et nécessite une action de Dieu en l'âme. Et ici, du reste, François de Sales ne craint pas de renvoyer explicitement son lecteur aux lignes de Thérèse d'Avila sur l'oraison de quiétude et sur le sommeil des puissants. Vous voyez, il renvoie à Thérèse d'Avila. Alors c'est dans ce traité, évidemment, beaucoup plus que dans l'introduction à la vie dévote, qu'on va trouver la théologie mystique de saint François de Sales. Au point que certains ont dit, mais chez lui, il y a même des tendances au quiétisme. Donc, vous voyez, des tendances un peu à... parle tellement de l'abandon, de la sainte indifférence, que... qu'est-ce qu'il en est ? Bon. En fait, l'auteur invite à l'amour de conformité. Bon, là encore, chaque auteur peut avoir son vocabulaire, et vous verrez que bon, c'est des choses qu'on rencontre avec d'autres. Soit, il n'y a rien de... tout à fait original, évidemment, heureusement. Donc, qu'est-ce que c'est que cet amour de conformité ? Eh bien, c'est la totale soumission à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Dans l'indifférence amoureuse de ce qui pourrait advenir à l'homme. Et c'est là où on le trouve explicitement chez François de Sales, la sainte indifférence va jusqu'à être indifférent à la récompense que nous pourrions attendre de Dieu, et même à notre salut, vous voyez. Dieu est tellement aimé que même s'il ne nous sauve pas, je dirais que l'important n'est pas là. Si, évidemment, l'important, c'est essentiel, mais le désintéressement fait que c'est vraiment pour lui-même, sans du tout aucun retour attendu. Voilà. Alors, derrière ça, on pourrait dire, bon, c'est des pieux propos, c'est gentil, c'est tout ça. Mais derrière ça, vous avez un peu ce qui a été le drame spirituel de saint François de Sales. C'est-à-dire qu'on l'ignore souvent, On a l'impression d'un homme pour qui tout a été facile, mais lui-même a été très tenté dans sa jeunesse, hein, quand il était tout jeune homme. Il a été tenté vraiment par le désespoir. Mais vraiment tenté par le désespoir, parce qu'il avait entendu des théories de la prédestination. C'est là, on voit hein, aussi hein, la proximité de Calvin. Donc il avait entendu parler de ça, la perspective de la damnation. Et en fait, il est vraiment sorti de cette crise. Il a résolu cette crise avec le pur amour, voyez, l'amour de conformité, en disant, ben voilà, mais quand bien même si j'étais damné, je bascule, voyez, je bascule, ce qui m'importe, c'est d'aimer Dieu. Donc la marche en avant, l'amour de Dieu, et c'est comme ça qu'il est vraiment, que sa crise personnelle a été résolue, et que là, du coup, il a été délivré aussi de ses angoisses. Et il en est resté le positif d'un chemin. Voilà, comme il est l'heure, eh bien nous allons arrêter. C'est juste un mot pour vous dire qu'il a beaucoup entraîné ses dirigés, Jeanne de Chantal en particulier, dans cet abandon face aux difficultés de toutes sortes. Ça, la pauvre Jeanne de Chantal, elle a été menée à rude école. Hein. Il n'a pas fait... Enfin, il en a fait une sainte, vous me direz, c'est ça qu'elle attendait. Mais... ça n'a pas été sans des purifications très fortes.